Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot. This is why, this is why,
this is why I'm hot. 19h, passé donc de 2 minutes pratiquement en direct. Bienvenue dans Soft Power Magazine des industries créatives numériques en direct, donc jusqu'à 20h depuis le premier studio 8e étage de la maison de la radio. Bonsoir à tous. Le Soft Power qui donne son nom à cette émission, c'est l'influence douce, l'influence culturelle ou numérique, l'influence à travers les idées et les arts, parfois l'économie. Et en France, nous avons, on ne le sait pas toujours, des agences officielles dédiées à cette mission, celle de l'influence et du soft power. L'Institut français, l'Agence française de développement, Campus France, Business France, Atout France, etc. Telles sont quelques-unes de ces associations ou établissements publics, agences dédiées à faire rayonner la France dans le monde. Toutes ces agences sont placées directement ou indirectement sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères. Et c'est vous, Anne-Marie Descôtes, qui pilotez l'ensemble de ce dispositif en tant que directrice générale de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international. C'est un titre un peu long, non ?
C'est un titre un peu long, en effet. Je crois qu'on peut dire tout simplement directrice générale de la mondialisation. Le fait d'avoir inscrit très explicitement
toutes ces missions,
la culture et l'enseignement dans le titre, c'était la volonté de Laurent Fabius.
Il avait peur qu'on oublie que vous aviez aussi la culture dans votre portefeuille.
Je crois qu'il souhaitait effectivement qu'on n'oublie pas que la culture restait au centre de notre mission d'influence et qu'il n'y avait pas que la diplomatie économique et que c'était une dimension essentielle, tout comme l'enseignement.
Alors on dira, pour aller plus vite dans cette émission, directrice et direction générale de la mondialisation, bref, vous êtes Madame Soft Power. En France, Anne-Marie Descôtes est mon invitée en direct jusqu'à 20h. Avec elle, nous parlerons de l'influence française à l'étranger, de notre coopération, de l'exportation de la culture et de la langue française et donc de notre soft power. Et à vos côtés ce soir, Romain Nadal, elle porte-parole du Quai d'Orsay. Il sera également avec nous. Bonsoir Romain Nadal.
Bonsoir.
Pierre Aski, notre chroniqueur, est rentré hier d'un long séjour en Iran. Et nous parlerons non pas de vos vacances, Pierre,
j'espère,
avec vous, mais dans l'alphabet numérique, vers 19h15, on parlera de l'Internet iranien, que l'on peut résumer d'une expression censure et innovation.
Oui, tout à fait. C'est les deux facettes de ce qui est, dans un pays étrange et complexe, un aspect très nouveau.
On écoutera également ce soir un extrait du film No Land Song, justement lié à l'Iran, bien que ce soit une chanteuse tunisienne que nous écouterons ce soir, ainsi que les chanteurs et groupes français Guillaume Perret, Tilassine et Fuseta. Tout ça dans Soft Power jusqu'à 20h, à suivre sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist de Deezer, ainsi que sur Instagram, Medium, Facebook en podcast et sur France Culture en direct. Anne-Marie Descôtes, vous êtes, on l'a dit, directrice générale de la mondialisation de la culture, de l'enseignement et du développement international. Il y a une époque, on parlait de notre diplomatie, de la diplomatie française, comme une diplomatie du rayonnement. Rayonnement, ça signifie au fond qu'on serait une sorte de soleil et à partir duquel des rayons s'adressaient au monde entier pour l'éduquer, pour... C'était peut-être quelque chose d'assez nostalgique ou une autre époque. Aujourd'hui, on parle d'une diplomatie d'influence. Est-ce qu'on peut résumer les évolutions en cours autour de ce changement, notamment de mots ?
Oui, je crois que en laissant de côté l'expression rayonnement, qui, comme vous l'avez dit, donnait le...
Un peu paternaliste, un peu condescendante.
Que nous éclairions le monde, ce qui n'était peut-être pas faux d'une certaine manière, mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui caractérise notre politique d'influence, c'est à la fois une volonté coordonnée d'avancer dans cette politique d'influence avec tous les instruments qui sont à notre disposition. Mais je crois qu'il faut aussi souligner le fait, parce que je pense que c'est caractéristique de notre politique en matière culturelle notamment, c'est qu'elle est faite d'échanges et de promotion de la diversité. Et je crois que c'est vraiment essentiel de garder cela en tête, même si nous sommes dans une démarche aujourd'hui plus agressive, au meilleur sens du terme, d'influence voulue et forte dans l'ensemble du monde, en tout cas partout où c'est possible. Il y a aussi cette volonté constante d'accueillir les autres cultures. Je crois qu'il faut regarder le Festival d'Avignon, le Festival de la BD, Cannes, pour ne citer que ces quelques manifestations. Ce, elle se caractérise par le fait que toujours nous mettons en valeur les artistes étrangers, les productions qui viennent de l'étranger. Et je crois que cette notion de diversité est absolument au cœur de notre démarche.
Alors dans une deuxième partie d'émission, on fera la cartographie des nombreuses agences, au fond, dont vous êtes un peu, c'est pas une très belle expression, mais la tutelle. Restons dans le général pour commencer cette émission. Vous avez donc une vision d'ensemble d'agences très multiples, on l'a dit, qui vont faire de la culture, de l'économie, aider le tourisme, la coopération, le volontariat, etc. Est-ce qu'il y a un pilote dans cet avion? Ou est-ce qu'on a du mal à avoir une vision d'ensemble quand on est à votre poste face à plusieurs milliers, sans doute, de personnes qui travaillent pour vous indirectement et pour le Quai d'Orsay sur et dans ces agences?
Bien sûr, peut-être faut-il rappeler le sens de cette évolution. Vous la connaissez bien, puisque vous-même, vous avez été un acteur de notre réseau.
Il y a longtemps.
Je crois que la création d'agences, elle n'est pas propre d'abord au ministère des Affaires étrangères. C'est une évolution qu'a connue l'administration sous toutes ses formes. Elle procédait de l'analyse que l'administration n'était certainement pas le meilleur acteur pour gérer la mise en place de programmes et d'opérations, et surtout pas à l'étranger. Et je crois qu'il y a eu cette volonté, en créant des agences, que ce soit l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'Institut français, Atout France, Expertise France, la volonté de dire, voilà, nous avons des agences, et c'est elles, ce sont ces établissements qui auront la structure administrative et juridique la plus appropriée pour à la fois monter des opérations avec de la subvention publique, mais également avec des ressources propres, et pour avoir la possibilité justement de gérer de l'argent de manière plus souple que ne peut le faire une administration centrale. Et donc l'administration centrale, elle est dans son rôle de tutelle, elle énonce les orientations stratégiques, et ce sont les opérateurs, donc les agences dont vous avez donné le nom,
qui font. Pierre Aski, une question.
Alors la réforme a été dessinée sous le règne de Bernard Kouchner, donc à l'époque de la présidence de Nicolas Sarkozy, mais Laurent Fabius lui a donné une dimension beaucoup plus économique. En tout cas au niveau du discours, il y avait un affichage de diplomatie économique au cœur de toute l'action du Quai d'Orsay qu'il n'y avait pas précédemment, même si cette dimension existait. Est-ce que, vous avez commencé en parlant de la culture, de l'accueil des autres cultures, etc., mais est-ce que l'évolution à la fois organisationnelle et sémantique n'est pas au service finalement de l'économie?
Alors, je crois que effectivement, on peut dire que lorsqu'a été créée la Direction générale de la mondialisation, qui succédait à la Direction générale de la coopération internationale et du développement, ça n'était pas simplement un jeu de mots, c'était la volonté de prendre acte du fait que nous sommes aujourd'hui confrontés dans tous les domaines à des enjeux globaux auxquels il faut apporter des réponses globales, et qu'il était curieux d'avoir une direction générale qui regroupait l'ensemble des moyens par lesquels nous nous projetons à l'étranger dans tous les domaines, sauf la dimension économique. Et donc, c'est là que Bernard Kouchner a décidé d'intégrer les services économiques à la direction générale de la mondialisation dans sa première mouture. Et puis, l'évolution et le constat qu'a fait, je crois, Laurent Fabius en 2012, c'est que la situation économique dans laquelle nous étions, qui est une situation de crise, exigeait que le ministère des Affaires étrangères aussi s'implique de son mieux pour apporter des réponses à cette situation de crise dans laquelle nous étions. Et donc,
ça veut dire qu'un bon mot pour résumer un synonyme du mot réforme, c'est économie d'échelle et réduction d'effectifs?
Non, je crois qu'il y a un contexte budgétaire extrêmement contraint, oui, c'est vrai, mais je crois que ce qui est intéressant, on y reviendra peut-être, c'est que précisément en ayant des établissements publics, des agences qui ont une très grande autonomie et surtout la capacité de recevoir, de générer des ressources propres, la baisse des subventions publiques peut se trouver compensée, et leur moyen d'agir et de se projeter est différent. Donc je crois que effectivement il y a eu une volonté de Laurent Fabius de structurer et de rendre beaucoup plus forte cette dimension de diplomatie économique sur laquelle le ministère travaillait déjà. Mais encore une fois, sans oublier la dimension culturelle, d'enseignement, de recherche et de développement.
Pierre Aski.
Mais certains membres du personnel du Quai d'Orsay pensent que ça, c'est quand même un habillage sémantique pour faire mieux avec moins de moyens.
la direction générale de la mondialisation.
La réorganisation, les agences, parce que quand même il y a eu une baisse considérable des moyens au cours de la dernière décennie, et qu'en gros les missions n'ont cessé d'augmenter et de s'élargir.
Alors, il y a de facto une baisse des moyens de l'intervention publique, mais moi, ce que je constate à côté de ça, c'est que les réseaux et les activités dont s'occupent ces agences sont en croissance constante. Je prendrai, pour exemple, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui, chaque année, ouvre de nouveaux établissements et dont le nombre d'élèves ne cesse de croître, et le budget également. Donc, il y a là
bien aussi.
L'évidence... Ce n'est pas un business, mais je crois que il faut aujourd'hui tenir compte du contexte dans lequel nous agissons. Et je crois que, effectivement, l'ère d'une politique culturelle entièrement subventionnée par l'État est terminée, et ce n'est peut-être pas un mal. Et je crois qu'aujourd'hui, nous opérons dans un monde extraordinairement concurrentiel, même quand on parle d'éducation. L'éducation est sans doute un des très grands enjeux du 21e siècle, sinon le principal. Il y a des familles qui cherchent des établissements de qualité et qui sont prêtes à investir de l'argent. L'éducation coûte. Et donc je crois qu'il est intéressant et utile aussi, à un moment donné, que les porteurs de politiques publiques sachent ce que ces politiques coûtent et ce qu'elles exigent en termes d'investissement. Et donc je crois que le fait qu'il y ait un équilibre entre une part mise à disposition par l'État et une part de ressources privées n'est absolument pas illégitime.
Anne-Marie Descôtes, directrice générale de la mondialisation au ministère des Affaires étrangères, et mon invité jusqu'à 20h. À ses côtés, Romain Nadal, et porte-parole du Quai d'Orsay. Une question peut-être pour vous deux. On a évoqué la diplomatie de rayonnement, la diplomatie d'influence, comme si au fond, il n'y avait qu'une diplomatie possible. Vous avez été vous-même, Anne-Marie Descôtes, en poste à Washington, à Bruxelles. Vous avez été au cabinet de Pierre Moscovici. D'autres personnes, Romain Nadal, a été ailleurs. Ça veut dire qu'il y a des pays très, très variés, très différents. Est-ce qu'au fond, on peut imaginer une seule diplomatie, ou est-ce qu'il ne faudrait pas en prévoir plusieurs? Une diplomatie pour les pays occidentaux, une pays pour les pays européens que vous connaissez bien, une diplomatie qui reste spécifique pour l'Afrique, une diplomatie dans des pays comme la Russie, la Chine, Cuba, qui sont d'autres types de modèles. Est-ce que ce n'est pas un peu ça le problème du ministère des Affaires étrangères? C'est de toujours penser à un modèle qui s'applique partout, alors qu'il faudrait peut-être le segmenter, le singulariser.
Je crois que vous avez tout à fait raison et que nous en tenons pleinement compte et que nous n'avons pas un schéma qui s'applique à un type de pays, mais nous avons des situations très diverses. D'ailleurs, la présence, les formes, les modalités de la présence de notre réseau diplomatique et de nos autres réseaux, les réseaux qui sont ceux des opérateurs, sont très différents d'un pays à l'autre et tiennent justement compte de cette diversité. On n'intervient pas en Afrique subsaharienne comme on intervient en Europe, on n'intervient pas aux États-Unis comme on intervient en Chine, et donc naturellement la politique culturelle, la politique d'influence doit être adaptée à chacun de ses interlocuteurs.
Sur cette question, une réaction, Romain Nadal.
Oui, nous avons un réseau universel. C'est l'une des grandes forces de notre diplomatie et de notre pays. Nous sommes présents quasiment partout et nous faisons du sur-mesure. Il est évident qu'on ne pratique pas la même politique à Washington, à Kuala Lumpur, à Bamako, à Kinshasa. À chaque fois, on s'adapte et nos ambassades et nos agents adaptent nos priorités aux réalités locales et aux coopérations que nous avons avec chacun des pays. Ce mois-ci, nous commençons un mois de la culture à Cuba. Et comme le disait Anne-Marie tout à l'heure, nous avons également un mois de la culture cubaine en France. Donc réciprocité, avec une programmation extrêmement éclectique, extrêmement variée. Donc il n'y a pas que l'économie, parce qu'on réduit souvent l'enjeu de l'ouverture de Cuba à un enjeu économique, mais c'est aussi pour nous un enjeu culturel. Et vous avez vu comment, dès le mois de mai, dès le début de ce mois, nous avons eu une série d'événements organisés à La Havane. Et puis, en France, nous accueillons toute une programmation cubaine.
Pierre Aski.
Est-ce qu'une des difficultés n'est pas le fait qu'aujourd'hui, tous les ministères ont leur politique étrangère, de certaines manières. Ils interviennent tous, en tout cas, à des degrés divers sur la scène internationale, et que l'un des enjeux a été de réaffirmer le rôle central du ministère. Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que la coordination est efficace? Et deuxièmement, est-ce que il n'y a pas des ministères qui ont leur propre politique étrangère, je sais pas, l'environnement, par exemple,
au hasard?
Non, je crois que votre question est extrêmement intéressante parce que effectivement, on a pu observer, et je crois que c'était un phénomène qui s'exprimait d'une certaine manière en parallèle avec la montée en puissance de la dimension européenne dans chacun des ministères. Et je crois que beaucoup de ministères ont cru à ce moment-là qu'ils pouvaient agir à l'international comme ils agissaient à Bruxelles. Ils se sont vite aperçus que ça n'était pas possible et qu'ils n'en avaient pas forcément les moyens ni les codes. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une forme de recentrage assez naturel autour du Quai d'Orsay, qui ne peut pas faire sans les autres administrations, qui n'empêche personne, et bien sûr, d'avoir des contacts à l'étranger, mais qui est reconnu dans cette capacité à faire la synthèse et à organiser justement l'équipe
mais
de France
encore,
à l'international.
Ça varie beaucoup. Quand on monte un projet culturel en Espagne, on n'a pas forcément besoin de l'ambassade, alors qu'évidemment, lorsqu'on est en Iran ou en Chine, c'est plus nécessaire. Donc c'est d'autres types de rapports que vous devez entretenir avec les opérateurs ou avec les artistes ou les intellectuels.
Bien sûr, tout à fait. Et il est évident qu'en Europe et dans d'autres pays du monde, les acteurs, les professionnels de la culture n'ont pas besoin de l'administration pour travailler ensemble, bien sûr.
Une question sur Twitter de David Yvet. La DGM, donc Direction Générale de Mondialisation, parle de structure, mais sur le fond, tout ça, pourquoi ? On pourrait rajouter à sa question, finalement, quel est votre but ? Est-ce que on sait encore ce qu'on veut faire ?
Oui, tout à fait, bien sûr. Plus que jamais, je crois que dans cette direction générale de la mondialisation qui regroupe donc trois directions et trois délégations, très rapidement, une direction chargée de la diplomatie économique, une direction chargée de la diplomatie du développement, une direction chargée de la diplomatie d'influence, c'est-à-dire la culture, l'université, la recherche, l'éducation. Et puis trois délégations, une qui est en charge de la gestion des moyens, puisque la direction générale de la mondialisation, c'est pratiquement la moitié des crédits du ministère, un peu plus de 2 milliards d'euros par an à gérer. Et puis, deux délégations, l'une qui s'occupe de la relation avec les collectivités territoriales, qui sont des acteurs de plus en plus importants à l'international, et une autre qui s'occupe de la société civile. Et je crois que la raison d'être de la Direction générale de la mondialisation, c'est précisément d'apporter de manière aussi coordonnée que possible des réponses opérationnelles aux enjeux globaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui.
Ça veut dire que la Direction générale de la mondialisation, pour reprendre une anecdote célèbre, ne dirige pas, ne pilote pas la mondialisation, pas plus en tout cas que la direction de l'Amérique ne contrôle l'Amérique.
Je crois que ce serait en effet un petit peu présomptueux.
Soft power. L'alphabet numérique.
L'alphabet numérique, notre séquence qui décrypte les internets autour des mots du web, ses expressions, ses tendances, ses évolutions. Et ce soir, en termes d'évolution, nous allons justement évoquer avec vous Pierre Aski, journaliste au Nouvel Observateur et fondateur de Rue 89, l'internet en Iran, l'Iran, dont vous revenez justement. Alors on pourrait définir le web iranien par une expression en forme d'oxymore, censure et créativité. Ce sont, à l'image de la Chine, deux faces contradictoires de l'internet de cet état chiite. Au fond, c'est, Pierre Aski, un internet très schizophrénique.
Oui, tout à fait, comme beaucoup de choses en Iran d'ailleurs, mais c'est vrai que on est resté sur l'image que recense chaque année Reporters sans frontières d'un pays ennemi d'internet, comme le dit RSF, et en particulier depuis les manifestations de 2009, il faut se souvenir, c'était l'élection présidentielle truquée, manifestation de rue assez massive à Téhéran, et pour la première fois, donc 2 ans avant les printemps arabes, les réseaux sociaux qui jouent un rôle absolument capital.
Oui, l'un des premiers, sinon le premier d'une révolution numérique, oui, un printemps musulman avant la lettre.
C'est la première fois effectivement que Twitter ou Facebook deviennent à ce point clé dans la propagation d'informations.
Ce qu'on avait appelé la révolution verte.
Absolument. Et ensuite, il y a eu un tour de vis, puisque la répression a marché. Ahmadinejad est resté 4 ans de plus au pouvoir. Twitter et Facebook ont été bloqués en Iran, et le sont encore aujourd'hui. Et des blogueurs, l'Iran est un pays de blogueurs, beaucoup de blogueurs ont été emprisonnés, etc.
Donc on disait 700 000 blogueurs, notamment je pense à un livre signé par Golan Kiabani et Annabelle Sreberny qui s'appelait Bloguistan, l'État iranien étant l'État des blogs.
C'était le pays qui comptait le plus grand nombre de blogueurs par connexion Internet. C'était absolument phénoménal. Tout ça a subi un coup de frein absolument brutal après 2009. Rohani, le président actuel, élu en 2013, réformateur, qui porte de nouveau les espoirs de changement de la société civile iranienne. Et tout d'un coup, on a un verrou qui saute. Et effectivement, aujourd'hui en Iran, ça se traduit par au moins deux choses. La première, c'est le débit. C'est-à-dire que les connexions Internet, tout d'un coup, ont été accélérées. C'est plus facile d'aller sur Internet, comme si la technique était totalement conditionnée au bon vouloir politique. Et la deuxième, c'est que effectivement, les Iraniens ont un petit peu moins peur aujourd'hui de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Il y a un Internet extrêmement vivant aujourd'hui, avec une caractéristique, c'est que les Iraniens sont très présents sur Telegram. Telegram, c'est une application de messagerie, puisque Twitter est bloqué. WeChat, qui a été un moment, donc l'application chinoise, le réseau social chinois, a été un moment très dominant en Iran. Il a été bloqué à son tour. Telegram est arrivé. Telegram, il faut...
Alors expliquez-nous, Telegram, voilà. C'est des échanges cryptés, au fond.
Voilà, tout à fait. Mais surtout, ça a une histoire. C'est que le fondateur de Telegram, c'est un Russe, Pavel Durov, exilé. Il avait en Russie un réseau social absolument extraordinaire, qui s'appelait VK, et qui était le Facebook russe, qui était supérieur d'ailleurs en nombre de membres à Facebook en Russie, et qui a été mis dehors, chassé de sa société par Vladimir Poutine et son administration. Il s'est réfugié à l'étranger, aujourd'hui il est installé entre Berlin, Amsterdam, il est citoyen d'une obscure île des Caraïbes qui vend ses passeports très chers, et il a créé cette nouvelle application qui s'appelle Telegram. Et plus de 10% des utilisateurs de Telegram dans le monde sont en Iran. 20 millions d'utilisateurs sur un pays de 80 millions d'habitants. Et c'est très, très populaire.
Alors, avant de parler de la créativité, au fond, du dynamisme en même temps qui existe aussi dans la société iranienne, terminons peut-être sur cette censure avec, au fond, une sorte de modèle chinois. On a voulu interdire WhatsApp. On a, vous l'avez dit, Twitter et Facebook qui sont difficiles d'accès, même s'il y a aussi partout des VPN et des systèmes de contournement de cette censure. Censure oui. Assez généralisée avec des mots-clés et tout un appareil d'État pas aussi efficace qu'en Chine, mais efficace.
C'est un modèle chinois, effectivement, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des sites qui sont bloqués en amont que vous ne pourrez pas obtenir comme Facebook, etc. Et vous avez des blocages par mots-clés, par requêtes, etc. Beaucoup ont trait au sexe. C'est le gros tabou de l'Internet iranien. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les deux tiers, d'après une étude, les deux tiers des Iraniens qui savent utiliser un VPN, c'est-à-dire un système de contournement
de la censure. Censure avec des efficacités relatives. J'avais moi-même testé cette censure. Il y a, par exemple, vous tapez Wikipédia, un certain nombre de lieux, de mots sont censurés. Vous tapez Dick Cheney, c'est également censuré, mais non pas parce qu'ils sont contre le vice-président, l'ancien vice-président américain, mais parce que dans Dick Cheney, il y a le mot Dick. Donc, ce qui prouve que c'est une censure relativement avec une efficacité très discutable parfois.
Oui, tout à fait. Avec en plus la dichotomie qu'il y a aujourd'hui entre l'administration du cyberespace qui dépend très largement du guide, donc de la partie théocratique du pouvoir, et puis un gouvernement dirigé par des civils élus qui sont autour du président Rouhani. Et vous parliez de cette tentative d'interdire WhatsApp. Le président s'est opposé à l'interdiction de WhatsApp et il a gagné un bras de fer avec cette administration.
Fuck off,
à l'instant, un extrait de la chanson Kelmir Ora, ma parole est libre, interprétée par la chanteuse tunisienne Emel Matouli. Dans le documentaire iranien No Lands Song, sorti à la mi-mars et encore en salle, le film documente le projet d'une jeune compositrice iranienne qui s'est mise en tête d'organiser un concert de chanteuses solistes à Téhéran. Téhéran, alors même que, comme on le sait, depuis la révolution de 1979, les femmes n'ont plus le droit de chanter en public comme solistes. Et d'ailleurs, la musique, assez généralement, est interdite en Iran, en particulier toutes les musiques occidentales. Un film que vous avez vu, Pieraski?
Oui, c'est un très beau film, et c'est aussi effectivement un combat très courageux de la réhabilitation de la voix féminine dans l'espace public iranien. Alors la musique est peut-être interdite, mais on en entend beaucoup, et de fait, ce sont des petits espaces de liberté qui sont conquis,
oui, vous
progressivement.
Êtes dans une voiture, on écoute la musique à tue-tête, et puis voilà. dès qu'une voiture de police approche, on coupe la musique, et puis la voiture dépasse, et on remet la musique.
C'est un jeu du chat et de la souris en Iran qui est très, très classique.
Alors pour terminer, deuxième partie de cette séquence alphabet numérique, on a évoqué la censure, mais l'autre face de l'Iran actuel, c'est une incroyable créativité, un grand nombre de start-up, et donc un dynamisme exceptionnel.
Voilà, l'Iran n'est pas devenu la Silicon Valley du jour au lendemain, et loin s'en faut, mais il est clair qu'il se passe quelque chose, c'est-à-dire que cette société civile qui cherche à exister, qui a connu ce moment d'abord sous la présidence de Khatami dans les années 90, puis de nouveau en 2009 au moment des événements, aujourd'hui est en train de ressurgir, et l'une des dimensions de cette renaissance de la société civile, c'est effectivement les start-up, comme partout dans le monde. Vous avez aujourd'hui plusieurs milliers de start-up qui existent en Iran. Il y a même un blog qui leur est dédié sur TechCrunch, c'est-à-dire qu'elles sont aujourd'hui, elles ont pignon sur rue. Et ce qui est remarquable, c'est que le président Rouhani a été élu en juin 2013. Dès le mois d'août, il y a un mouvement qui s'est créé de meet-up, donc tous les mois, des rassemblements de start-up pour échanger, pour trouver des investisseurs, pour faire des présentations, comme ça se passe partout ailleurs, mais en Iran, c'était jusque-là impossible. Et aujourd'hui, on a cette scène qui a en plus des liens avec la communauté iranienne aux États-Unis.
Notamment à Tehran Angeles, le quartier iranien de Los Angeles.
Exactement. Et il y a un certain nombre d'Iraniens. Lorsque j'étais à Téhéran, on parlait beaucoup du fondateur de Periscope, par exemple, qui est un Iranien américain, qui est une star à Téhéran parce que voilà, c'est une des success stories de la Californie.
Dans les applications, pour terminer, qu'on utilise le plus, il y aurait donc Telegram, Instagram, c'est ça le modèle actuel?
Instagram est très fréquent, donc ce sont ces deux applications. Et on voit naître tous les jours des projets. La semaine dernière, par exemple, on annonçait la naissance d'un réseau social collaboratif sur Téhéran pour signaler les améliorations à l'environnement, au parc qui ne serait mal entretenu, aux routes défectueuses, etc. Ça paraît des petites choses, mais dans un pays où la société civile a mal fou à percer, à émerger et à s'organiser, ce sont des voies de contournement des interdits qui permettent aux gens de se regrouper, de se rassembler, de se ressembler aussi et de travailler en commun.
Je vous renvoie à différents livres. On a cité Blogistan, maintenant qui date un petit peu, mais livre signé Golan Kiabani et Annabelle Sreberny. Un livre intéressant qui vient de paraître chez Grasset, signé Shadort Javan, qui est un livre sur les prostituées en Iran. Ça s'appelle « Les putes voilées n'iront jamais au paradis », donc publié chez Grasset. Et puis l'enquête aussi qu'avait publiée il y a quelques mois Delphine Minoué, et que je vous recommande, sur l'Iran. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter articles, ouvrages et références sur les réseaux sociaux, sur cet internet iranien au mot-clé Soft Power. Vous pouvez également vous abonner au podcast Soft Power sur le site franceculture.fr, et pour tous les anciens mots de l'alphabet numérique, consultez notre page alphabetnumérique.com. France Culture, il est précisément 19h30, vous êtes en direct. Mon invité ce soir est Anne-Marie Descôtes, elle est directrice générale de la mondialisation au ministère des Affaires étrangères, la direction qui s'occupe de la culture, l'enseignement, du développement international et donc de l'ensemble des agences dont nous allons parler en deuxième partie de cette émission. Romain Nadal, le porte-parole du Quai d'Orsay, est à ses côtés, et Pieraski de Rue 89 également. On se retrouve juste après Sand, c'est un morceau d'un artiste français, Tilassine, alias William Rézé, originaire d'Angers. Et c'est un extrait de son album Blind qui est paru en 2014. Des titres bien français, en anglais en l'occurrence. Il se produisait, Tilassine, aujourd'hui même en Indonésie, à Yogyakarta, dans le cadre d'une série de concerts en Asie organisée par l'Institut français. Le soutien de la musique française aux quatre coins du globe, hein, l'une des dimensions importantes de l'action, de l'influence de la France et notamment de l'Institut français. Culture 19h33, à l'écoute de Sand, Tilassine, groupe français, promu actuellement par l'Institut français.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
On est ensemble jusqu'à 20h, 19h34 en direct sur France Culture. Anne-Marie Descôtes est la directrice générale de la mondialisation, ministère des Affaires étrangères, avec nous en direct jusqu'à 20h, accompagnée de Romain Nadal, le porte-parole du Quai d'Orsay. On a évoqué en première partie d'émission, au fond, des logiques d'ensemble, un projet culturel, un projet d'influence pour la France. On va essayer de rentrer dans cette deuxième partie d'émission dans un certain nombre de détails et commencer par une cartographie, au fond, de ces agences assez nombreuses qui sont sous votre tutelle. Business France, l'ancien UBI France, Campus France pour les universités, Atout France pour le tourisme, AFD, l'agence française de développement qui reprend une partie des missions de l'ancien ministère de la coopération. Il y a des agences plus spécialisées sur le volontariat, France Volontaire, et puis CFI et d'autres qui peuvent travailler sur l'audiovisuel ou sur tel ou tel aspect, sans parler de tous les liens que vous avez avec des agences liées à la francophonie, la santé, Communitaid ou d'autres. Commençons peut-être par l'Institut français, une des agences les plus connues du ministère des Affaires étrangères. À l'époque, c'était les centres culturels, les instituts français. Ils ont eu plusieurs noms. Aujourd'hui, ils sont rassemblés sous cette agence d'instituts français, projet de Bernard Kouchner, projet qui avait été défendu comme une forme d'autonomie, une forme de permettre à la culture d'avoir des professionnels souvent issus de la culture ou des milieux universitaires à leur tête. Aujourd'hui, on a un peu l'impression que c'est une agence qui est rentrée dans le rang, qui notamment sous Laurent Fabius est redevenue une agence du Quai d'Orsay, pilotée par un ambassadeur, et qui, au fond, n'a pas réussi son émancipation.
Sans entrer dans des détails trop administratifs qui ne seraient peut-être pas très intéressants, je crois qu'il faut simplement indiquer que la question s'est posée en effet de savoir si le réseau culturel et, qui dépend des ambassades devait être rattaché ou non à l'Institut français. Mais en fait, il se trouve que nos services culturels à l'étranger ont une très grande variété de missions et qu'il ne paraissait pas souhaitable de décider de les rattacher à l'Institut français plutôt qu'à l'agence.
Parce que les ambassadeurs voulaient aussi garder le pouvoir sur ces instituts.
Garder le pouvoir, je crois qu'il est important que l'ambassadeur en poste soit le chef d'orchestre de l'équipe France dans toutes ses composantes.
Oui, il est plénipotentiaire, comme le dit son nom.
Mais c'est son rôle, il représente l'État.
Très souvent, il connaît pas grand-chose à l'économie, très peu à la culture.
Je crois que n'oublions vous seriez surpris, nos ambassadeurs sont instruits sur l'ensemble des sujets de leurs compétences et ils sont surtout responsables de l'animation de l'ensemble de l'équipe. Aujourd'hui,
mais ça,
c'est très
c'est
important.
C'est pas une espèce de jacobinisme français
de,
qui n'est plus.
Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois qu'on se. On parle souvent de avec. Un peu de jalousie de la capacité des Anglo-Saxons à frapper fort, à être visibles.
Le British Council, voilà. Le Goethe Institute en Allemagne.
Et donc, je crois qu'il faut justement que nous nous donnions les moyens d'être aussi efficaces dans un contexte extraordinairement concurrentiel.
Oui, mais c'est justement un mauvais exemple, puisque le Goethe Institute est très indépendant des ambassades, comme vous savez, le British Council encore plus. Donc nous, on a le caporal, alors oublions que l'ambassadeur qui va diriger ça. Alors, en plus, il y a un quart de... Il y a quand même un quart de fou, incompétent narcissique parmi les ambassadeurs, un autre quart qui s'y intéresse pas trop. Donc déjà, on travaille avec la moitié. Comment est-ce qu'on est capable d'avoir un projet culturel piloté par une ambassade quand le soft power qu'ils doivent faire est toujours autre chose que ce qu'est leur vrai métier, qui est quand même le hard power?
Non, je crois que de ce point de vue-là, les choses ont
changé.
Beaucoup évolué depuis l'époque où vous avez été dans le réseau, et c'est sans doute une évolution assez récente des 4 ou 5 dernières années.
Vous voulez dire que les fous et les narcissiques n'existent depuis le départ.
Bien sûr, mais les fous et les narcissiques existent dans toutes les communautés humaines, et je crois qu'elles en font aussi la richesse et la diversité. Et certainement Radio France a aussi son quota de fous et de narcissiques. Mais je crois surtout que il y a vraiment aujourd'hui la prise de conscience. Encore une fois, on ne peut pas à la fois tous les jours se plaindre, s'auto-flageller que rien ne va plus en France, qu'on a perdu notre place de puissance, de si, etc. Et ne pas vouloir être unis, faire face et dire on y va parce qu'on a des atouts et que l'essentiel c'est d'avoir constamment en tête l'ensemble des atouts que nous avons. Et je crois que l'ambassadeur ne doit pas se substituer aux agences et il ne le fera pas. Il ne le fera pas, mais il doit être capable de les réunir, de fédérer et de faire en sorte que tout le monde agisse de manière coordonnée. Aujourd'hui, il est évident que vous ne pouvez pas vous occuper de tourisme sans vous occuper de patrimoine. Vous ne pouvez pas vous occuper de culture en considérant que c'est simplement pour la beauté de la production artistique. Mais il y a derrière des industries culturelles et créatives. C'est un secteur qui pèse 4 fois plus que le secteur automobile en France. On ne le sait pas. Donc,
oui,
c'est
mais à
colossal.
L'époque, on a eu Paul Claudel, on a eu Claude Lévi-Strauss, on a eu Roland Barthes, on a eu Saint-John Pierce, on a eu Romain Gary, Jean-Christophe Ruffin plus récemment et plus anciennement Chateaubriand ou Stendhal.
Mais il n'y avait pas le numérique à l'époque.
Qui ont été des directeurs d'instituts, d'alliances, en poste de service culturel avec des personnalités. Aujourd'hui, c'est un ambassadeur qu'on connaît à peine, une directrice générale qui est une administrative. Tout ça est très bien, mais on ne sent plus l'Institut français, cette agence avec une espèce de personnalité, avec une vraie défense de la culture ou des idées.
Mais l'essentiel est-il d'avoir une personnalité très connue à la tête de l'Institut ou que l'Institut
soit lui-même très connu?
Non, que l'Institut soit en capacité de faire rayonner les artistes et ceux qui ont quelque chose à produire, à dire, à faire connaître. Enfin, je crois qu'il ne faut peut-être pas mélanger les choses et je pense que les agences font bien leur travail. Vous avez cité à l'instant ce festival French Miracle qui permet justement à Tilassine, que nous avons entendu, de se produire en Asie. Mais je pourrais citer une dizaine d'événements ou de programmes que met en œuvre l'Institut français pour aider les cinémas du monde à Cannes la semaine prochaine. Mustang, Winter Sleep n'auraient peut-être pas eu la Palme d'Or s'il n'y avait pas eu l'aide de l'Institut français en coordination avec le Centre national du cinéma.
Alors, donc, puisque madame, puisque vous avez évoqué les fous narcissiques de Radio France, Pierre Aski, une question de suite.
Ma question n'est pas folle du tout. Est-ce que le nerf de la guerre est là? Parce que le nerf de la guerre, c'est toujours les budgets. Et je suis tombé sur un passage d'un livre que vient de publier Jérôme Clément, qui est président de la Fondation des Alliances Françaises, donc qui est dans ce sujet.
Ancien patron d'Arte,
etc. Oui, tout à fait, bien connu. Et qui dit, voilà, je cite, dans les années 70, le secteur culturel représentait 53% des crédits du Quai d'Orsay. Nous sommes aujourd'hui à moins de 20%. Dans ce domaine comme dans d'autres, le secteur culturel est devenu une variable d'ajustement budgétaire. Est-ce que, en passant de ce rayonnement, qui est peut-être effectivement un vestige un peu désuet à l'influence, on n'a pas en même temps enterré une partie de l'ambition culturelle qui faisait la spécificité française ?
Je ne crois pas. Je pense ne pas pouvoir contester le fait que la subvention publique a diminué et que nous sommes dans une situation budgétaire contrainte. Mais encore une fois, aujourd'hui, on travaille différemment. Et le fait d'avoir mis en place des agences, c'est précisément pour leur permettre d'avoir des ressources propres et d'agir de manière beaucoup plus libre que ne le fait une administration et de manière plus professionnelle. Aujourd'hui, le Centre Pompidou veut travailler à l'étranger, veut s'exporter, vous connaissez ce projet en Chine, lorsqu'il s'exporte en Espagne, il n'a pas besoin de la subvention du ministère des Affaires étrangères. Il le fait d'une autre manière, il vend son expertise. Et c'est normal aussi, il n'y a pas de raison de considérer que l'expertise française, qui est immense, qui est reconnue dans le domaine des musées et dans d'autres domaines de la culture, et que cette expérience devrait continuer à être mise gratuitement à disposition.
Une réaction peut-être de Romain Nadal sur l'Institut français. On s'est un peu flagellé avec l'Institut français.
Oui, je crois qu'il ne faut pas avoir une vision passéiste des choses ou une nostalgie. Je crois que nous nous sommes adaptés au temps nouveau et à la façon de travailler d'aujourd'hui. En réseau, avec une organisation administrative plus simple, plus lisible, mieux organisée, avec moins de doublons. Vous disiez que les autres ministères souhaitaient avoir le volet externe de leur politique publique nationale. Mais justement, on avait besoin de remettre de la coordination sous l'autorité de l'ambassadeur dans un pays, pas pour en faire un despote, mais pour en faire l'animateur, celui qui a la vision d'ensemble. Et je crois que c'est le cas aujourd'hui dans le réseau. Il y a des partenariats publics-privés. Il est évident que ça ne peut plus passer uniquement par des budgets publics. Il faut des partenariats avec des entreprises, avec des collectivités locales. Anne-Marie soulignait qu'au sein de la Direction Générale de la Mondialisation, il y avait une délégation qui gérait les relations avec les collectivités locales, parce qu'aujourd'hui, notre action publique extérieure, elle passe aussi par d'autres partenaires. Des collectivités locales, des entreprises, des organisation non gouvernementale.
Un programme qui pourra avoir un sponsor Louis Vuitton ou autre, et dans un pays qui intéresse le sponsor, aura plus de chances de passer qu'un programme dans un pays moins bankable.
Pas forcément, parce qu'il y a des pays qui n'apparaissent pas comme ça immédiatement solvables, mais qui peuvent aussi être présentés des intérêts, soit par des entreprises, soit pour des collectivités locales, soit tout simplement parce qu'à ce moment-là, l'État prendra le relais et financera. Je crois qu'il faut faire appel à l'ensemble des possibilités qui s'offrent à nous aujourd'hui, parce que tout simplement, l'État a besoin aussi de contrôler sa dépense et que le citoyen est exigeant dans l'utilisation de la ressource publique, et le Quai d'Orsay fait des efforts en ce sens. Do you feel like a bull prized in a pit? Who knows? What God made of the seed souls? You're the one who must care. Who must care?
Vous remarquerez que nous avons fait une programmation musicale presque entièrement dédiée à l'influence française et à son soft power, à l'Institut français aussi. C'est le titre Plage du groupe originaire de Vannes, Fuseta, extrait de leur album Dive, paru l'année dernière. Fuseta, c'est le nom d'un petit village de pêcheurs au Portugal qui a visiblement inspiré ces quatre Bretons, un groupe qui a lui aussi participé au French Miracle Tour organisé par l'Institut français en Asie. Et le groupe est en ce moment en tournée en France. Il sera à Lyon le 13 mai prochain. Comment est-ce que vous expliquez d'ailleurs le succès au fond de ces artistes, de ces musiques sur lesquelles vous surfez d'ailleurs, comme à l'époque on avait Manu Chao et son fameux Clandestino, ce serait en 2016, des artistes que comme ça vous accompagnez, vous essayez d'aider à être promus partout dans le monde?
Comment expliquer leur succès sinon en considérant qu'ils ont un talent fou et que ce talent est reconnu et que notre travail c'est aussi de les faire connaître, et puis lorsqu'ils sont connus, demandés, eh bien ils peuvent voler
ils chantent,
de leur propre
ils aile. Chantent souvent en anglais, même quand c'est des groupes électro, ils se débrouillent à avoir des titres en anglais, c'est pas un problème pour le Quai d'Orsay qui défend la francophonie?
Mais non, je crois que notre défense de la francophonie ne doit pas être dictatorial. Il ne s'agit pas pour nous d'imposer aux artistes de travailler en français.
Alors,
s'ils souhaitent faire en anglais.
Autre agence importante, Campus France, c'est l'agence de l'attractivité, notamment pour nos universités. On est un pays d'accueil. Quel est notre rang en termes d'accueil? Anne-Marie Descottes, vous êtes directrice générale, oui, de la mondialisation au ministère des Affaires étrangères.
Vous parlez de Campus France et c'est un secteur tout à fait essentiel, puisque Campus France est chargé de la mobilité étudiante et en particulier de l'attractivité de la France pour les étudiants étrangers. La France est la troisième destination
après
les
États-Unis et l'Angleterre.
Voilà, absolument. Donc c'est bientôt nous aurons 300 000 étudiants étrangers. C'est tout à fait important. Et donc
il faut enseigner en français ou il faut enseigner en France mais en anglais?
Mais comme vous
pour
le savez,
pour avoir des Chinois, pour avoir des Indiens, etc.
Le débat a eu lieu. Donc évidemment notre souhait est que l'on vienne étudier en France, si possible en français. Ça suppose que nous donnions à ces étudiants les moyens de maîtriser le français, et les alliances françaises, l'Institut français sont là dans leur pays d'origine ou en France pour le faire. Mais il y a aujourd'hui de plus en plus d'universités qui proposent des cours en anglais. Je crois que c'est une très bonne chose, et je pense que si nous voulons
peut-être
aider...
commencer par l'anglais quand ils ne parlent pas français, les amener en les renforçant dans la langue à ce qu'ils puissent suivre des cours en français.
Absolument,
très vite.
Tout dépend des cursus bien sûr vers lesquels ils se dirigent, et si les établissements d'enseignement supérieur qu'il fréquente offre ou non ces cours en anglais. Je crois que en effet les deux sont possibles, et comme dans tous les pays c'est un facteur important d'internationalisation de nos établissements.
Autre agence très importante, l'AFD, Agence Française de Développement, qui s'occupe de l'aide publique au développement. On a souvent dit que c'était l'agence qui s'occupait de l'Afrique, hein, c'est pour une partie l'ancien ministère de la coopération. Est-ce qu'on sort de l'Afrique aujourd'hui? Est-ce qu'on abandonne l'Afrique?
Alors d'abord, on n'abandonne pas l'Afrique.
Je m'attendais à cette réponse.
Non, puisque nous fixons les orientations stratégiques des opérateurs, je puis vous confirmer que l'Afrique reste une zone tout à fait prioritaire pour la France et pour l'Agence française de développement. D'ailleurs, elle n'est pas prioritaire que pour nous, et la concurrence est très forte aujourd'hui en Afrique. Mais l'agence, aujourd'hui, a étendu considérablement ses géographies.
C'est notamment une banque, ça veut dire qu'elle fonctionne sur des financements qui sont dans le marché.
Absolument, prêt souverain. Tout
une
à
action
fait.
En santé publique très, très importante, et peut-être une question pour Romain Nadal, là, c'est la question au Quai d'Orsay. On lit dans le JDD d'aujourd'hui une interview d'une page de Philippe Douste-Blazy, qui a été médecin, ministre de la Santé, et qui est aujourd'hui patron d'Unité, de l'agence qui s'occupe notamment de la taxe qui aide le sida par rapport aux billets d'avion. Il annonce sa candidature à l'OMS. Une réaction?
Oui, c'est une candidature qui est soutenue par la France. Il a fait un travail formidable au sein d'United, à la fois en termes de santé publique mondiale, mais aussi en termes de financement innovant, parce que là aussi, il a fallu trouver des moyens nouveaux pour pouvoir financer un certain nombre de politiques de santé publique mondiale. Et grâce à la taxe sur les billets d'avion, on a réussi à réunir des fonds considérables qui ont permis de sauver des vies et de développer une véritable politique de santé mondiale en direction des pays les plus démunis, favoriser aussi l'accès aux médicaments. Donc c'est ce projet que Philippe Douste-Blazy va défendre pour l'Organisation mondiale de la santé, et il sera soutenu par notre pays.
Une autre agence importante, Atout France, alors elle s'occupe du tourisme, aussi des vignobles, j'ai vu, il y a 32 bureaux à travers le monde, elle a même lancé un MOOC, le MOOC Atout France, je demande à voir. Observer, analyser les marchés touristiques, renforcer l'offre touristique, c'est un peu ça ses objectifs. Mais pour parler un peu du numérique, on n'a pas trop parlé jusqu'à présent, face à Bookings, face à Expedia, face à Airbnb et d'autres, comment est-ce qu'on peut peser encore ?
Alors, il y a toute une série de problèmes que vous abordez à travers cette question, parce qu'il y a le rôle d'Atout France en tant qu'agence de promotion de l'attractivité de la France, en tant que pourvoyeuse aussi d'expertise, parce que il y a un double mouvement là aussi dans le tourisme. Il y a le fait de faire venir des touristes en France, mais il y a aussi le fait de promouvoir notre capacité dans le domaine du tourisme à construire des établissements touristiques, à gérer des programmes touristiques, de l'accueil dans des établissements culturels. Bref, il y a toute une série de choses que nous pouvons faire connaître et exporter à l'étranger, et c'est le rôle du réseau d'Atout France. Ensuite, les questions liées à Airbnb et à leur place sur le marché, ce sont des questions de type législatives et réglementaires qui sont, comme vous le savez, traitées par ailleurs, parce que le problème n'est pas qu'elles existent. La question, c'est de savoir si...
Comment on régule,
dans quels environnements elles opèrent et de quelle manière.
Sur ce sujet, justement, Romain Nadal, vous êtes le porte-parole du Quai d'Orsay. On a vu qu'il y avait des négociations en cours pour une nouvelle gouvernance d'Internet. Les Américains avaient promis il y a quelques années que l'ICANN, qui gère notamment les noms de domaines, devienne au fond une structure moins américaine, une association loi 1901 qui n'aurait peut-être plus ses statuts en Californie comme c'est le cas, et qui serait avec une gouvernance plus plurielle. On voit aujourd'hui que ce n'est pas exactement le cas. J'ai vu que le directeur général de l'AFNIC, Mathieu Veil, était monté au créneau pour critiquer ces négociations. Comment on fait?
Oui, nous souhaitons qu'il y ait un équilibre entre la place des États et la place des acteurs privés au sein de l'ICANN. Il y a une évolution qui est favorable, c'est-à-dire que l'ICANN va aller vers plus d'autonomie, va sortir du giron américain, puisqu'elle est née aux États-Unis et dans le cadre de la loi de Californie, et sous le contrôle du département du commerce. Donc depuis 2 ans, il y a un processus, il y a un travail qui est engagé, et au sein du ministère, c'est David Martinon, qui est notre ambassadeur chargé de cette négociation et de conduire la délégation française. Nous trouvons que les derniers travaux issus de la conférence de Marrakech n'ont pas permis un bon équilibre entre le rôle des États et le rôle des acteurs privés. C'est-à-dire que pour le moment, le rôle des États est insuffisant.
C'est aussi parce qu'on a peur que la Chine, l'Iran, Cuba, d'autres pays aient trop la mainmise sur Internet.
Oui, mais
ce qui est aussi pour être aussi une position française.
Oui, mais il faut pas que l'internet soit une jungle sans règles. Il faut pas que ce soit un intranet de quelques sociétés privées. Mais il faut pas non plus évidemment que des États mettent la main sur ce réseau. Il faut donc trouver un équilibre. Et nous avons promu au sein de ces négociations un équilibre plus respectueux des rôles de chacun, c'est-à-dire les acteurs privés qui ont évidemment toute leur place. Il faut aussi d'ailleurs que les internautes, la société civile aient également sa place, mais il faut aussi que les États puissent jouer un rôle de régulation et de défense de l'intérêt général. Voilà. Pour le moment, cet équilibre n'est pas atteint, mais les négociations vont se poursuivre à Helsinki à la fin du mois de juin, et nous allons encore défendre nos positions. Il faut un équilibre. C'est une négociation qui est technique, qui est difficile, mais nous allons nous engager dans ce nécessaire compromis entre le rôle des États et le rôle des acteurs privés.
Pour terminer, deux dernières agences parmi... C'est un gros cheptel d'agences que vous gérez. Vous êtes à la tête d'un large nombre d'agences et du coup donc de contractuels ou de fonctionnaires. France Volontaires, c'est une agence qui s'occupe essentiellement des volontaires internationaux de type service civique. Ça a toujours été des personnels nombreux au ministère des Affaires étrangères. C'est une bonne chose que de multiplier, de continuer à avoir des volontaires internationaux. C'est une priorité pour le Quai d'Orsay.
Oui, je crois que dans les actions de solidarité à l'étranger, c'est un réseau tout à fait essentiel et qui aujourd'hui, au moment où le président de la République, comme vous savez, a fait du service civique et de cette
quatre ans après le début de son septennat et de son quinquennat, il était temps.
C'est important pour les jeunes, et donc la dimension internationale, elle peut s'opérer avec France Volontaires, et nous sommes en train de chercher justement des passerelles entre ces deux réseaux.
Pierre Aski.
Votre intitulé commence par la mondialisation. Est-ce que c'est pas difficile de défendre cet intitulé? Parce que dans un pays où le mot mondialisation a pris une connotation extrêmement négative, associé à délocalisation, à dérégulation, je veux dire, en ce moment, on a encore de nouvelles polémiques au sujet du traité transatlantique. Est-ce que vous êtes en capacité de défendre une approche positive de la mondialisation à travers votre action? Est-ce que vous êtes audible en France?
Je crois que il ne faut pas se méprendre sur le titre. Encore une fois, le rôle de la Direction générale de la mondialisation, c'est de s'inscrire dans un contexte où la mondialisation est un fait et de voir, face aux enjeux globaux, quelle réponse nous apportons. Il ne s'agit pas de défendre la mondialisation ou de dire que c'est bien ou que ça ne l'est pas. Je crois qu'il faut dire, voilà, la mondialisation est une donnée aujourd'hui. Lorsqu'on est la France, un pays membre du Conseil de sécurité, avec des responsabilités au niveau mondial, nous devons être capables d'apporter des réponses coordonnées aux enjeux globaux auxquels nous devons faire face aujourd'hui.
Voilà, audible, hein, Anne-Marie Descôtes.
Oui, mais en même temps, la place centrale donnée à l'économie, qui se justifie totalement par l'état de l'économie française et les besoins de l'économie française dans la concurrence, fait que le projet semble se soumettre à la mondialisation beaucoup plus que d'en être un acteur et de manière plus volontariste. C'est peut-être le fait de ce glissement dans lequel la culture est moins centrale.
Mais je ne crois pas, parce qu'en ce qui concerne la culture, s'il y a effectivement cette volonté de prendre acte, comme je le disais tout à l'heure, du poids considérable du secteur de la culture dans la richesse nationale et internationale, et défendre les industries culturelles et créatives, à côté de ça, nous continuons à soutenir et à plaider pour la diversité, à plaider pour les cinémas du monde, à plaider pour les artistes qui sont moins connus. Donc je crois que nous pouvons faire l'un et l'autre. Il n'y a pas de contradiction. En ce qui concerne la mondialisation, la position française est claire. Aujourd'hui, elle est claire sur le traité transatlantique. Vous y avez fait allusion. Il n'empêche, encore une fois, que nous devons, devant cette réalité, essayer d'apporter les réponses les plus crédibles, les plus solides, les plus cohérentes, respectueuses de notre tradition et de notre histoire.
Romain Nadal, sur cette mondialisation dont on fait titre au Quai d'Orsay, en même temps que les Français ont du mal à comprendre ou admettre des fois.
Mais nous sommes aussi des pédagogues de la mondialisation. Comme le disait Anne-Marie, la mondialisation est un fait et nous sommes le ministère de la régulation de cette mondialisation dans tous ses aspects, la sécurité, la protection de la planète, on l'a vu l'année dernière avec la COP21, le dynamisme économique, parce que c'est une source de création d'emplois pour la France et de croissance, la culture, qui n'est pas négligée, au contraire, pour nous, elle a une place centrale, surtout dans un monde plein d'insécurité. La culture, c'est la rencontre de l'autre, c'est d'une certaine façon une façon de mieux appréhender le monde. Et puis également tout ce qui est l'action culturelle extérieure, qui est pour nous vraiment très 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 importante. Et l'Europe, oui, je voulais ne pas oublier l'Europe. Pour nous, c'est une dimension très importante de notre action, c'est une autre de nos priorités dans une année européenne vraiment charnière, avec le référendum au Royaume-Uni, les difficultés liées aux migrations et aux difficultés économiques de l'Union européenne. Ça reste pour nous, notre action extérieure s'inscrit aussi dans le projet européen.
Merci à tous pour cette émission. On se quitte avec au son du saxophone de Guillaume Perret, Inside Song. C'est le titre de ce morceau qui paraîtra à l'automne sur un nouvel album qui donnera notamment lieu à une tournée en Afrique et en Inde soutenue par l'Institut français. On en reste là pour ce soir. Vous pouvez retrouver toutes les sources de cette émission, articles et références, liens internet, programmation musicale et livres. Consultez tout ça sur la page web de cette émission, sur le site Medium ainsi que sur Twitter au mot-clé Soft Power. Merci infiniment à Anne-Marie Descôtes. Merci d'être venue, madame, ce soir dans Soft Power. Romain Nadal, porte-parole du Quai d'Orsay, et Pierre Aski, bonsoir à tous.
Bonsoir,
dimanche
merci.
Prochain, nous parlerons des représentations du numérique dans la culture, les films, le jeu vidéo, la littérature, encore le spectacle vivant. Vous pouvez vous abonner à notre podcast, Soft Power, sur le site franceculture.fr. Cette émission a été préparée ce soir par Mathilde Wagman, assistée de David Lavaux, à la régie d'Ophar Guéride. Soft Power, une émission de Frédéric Martel, réalisée ce soir par David Jakubowicz.